création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir, Pierre Schaeffer, entré à la radiodiffusion en 1935, fonde en 1943 le studio d'essai. Il s'engage dans l'invention d'un art radiophonique. 1943, cela veut dire bien sûr avoir affaire aux autorisations de Vichy, mettre en mouvement une équipe de pionniers dans une chambre de bonne de la rue de l'Université. 1944, ils enregistrent clandestinement les poètes de la Résistance, diffusent des messages et des compositeurs interdits par les Allemands. Au terme de ces deux années, c'est une radio debout qui a vu le jour. Pierre Schaeffer, par Stéphane Bonnefoy et Alexandre Bazin, en collaboration avec Daniel Teruggi, pour le groupe de recherche musicale GRM de l'INA.
En bas, dans le studio, quelques FFI du quartier montent la garde. Il est 11h du soir.
Allô ?
Allô ?
Studio d'essai ?
Oui ?
Je pourrais parler à M. Schaeffer.
C'est moi.
Ah, bonjour, cher ami.
Qu'est-ce qu'il a ?
Éluard.
Ah bon, bonsoir.
Très gentil votre appel aux armes, je viens d'entendre.
Oui.
Mais les combattants sont depuis longtemps dans la rue.
Ouais.
Faut-il que nous descendions dans le noir, ça, avec nos couteaux de cuisine, les 11h?
Il s'agit de donner aux Parisiens des informations, de leur faire comprendre dans quel esprit se passe l'insurrection, afin de donner une orchestration. La radio aussi combat à sa manière.
Bon, bon.
Du studio d'essai. 1943-1945. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Alexandre Bazin.
J'avais envie de faire une radio qui soit intelligente, qui soit dans la ligne de la culture, de la tradition française. Et je dois dire que comme nous étions radio d'État, alors que les postes privés nous avaient précédés, que les postes privés étaient carrément mercantiles, il faut bien dire que le combat de cette jeune équipe pour faire une radio française digne de ce nom était un combat extrêmement idéologique.
Pierre Schaeffer, 1981.
Au départ, j'étais, malheureusement pour moi, ingénieur des PTT. On n'appelait pas encore ça télécommunication. Et j'ai commencé par surveiller des lignes téléphoniques en Alsace. Et je m'ennuyais tellement, je trouvais tellement terrible d'avoir fait Polytechnique et des hautes études pour voir simplement si les fils électriques croisaient les fils téléphoniques à la distance réglementaire d'un mètre 20 ou un mètre 50, je ne me rappelle plus, que j'ai failli devenir neurasthénique. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'une espèce de petit gang de camarades qui était en train de fabriquer une chose mal connue qu'on appelait la radio française. Ça s'appelait RF, comme République française. Ça s'appelait pas d'ailleurs encore RF, ça s'appelait une petite annexe des PTT. C'était dans les années 35. Nous avions 10 ans de retard sur les étrangers, au minimum.
Martin Kaltenecker,
théorie sur la radio dans les années, fin des années 20 et puis années 30, se fait sur, à partir de tout un terreau, on pourrait dire, très, très pratique, puisque les revues de radio, soit des revues de musicologie ou de musique, soit vraiment des revues un peu de techniciens, voire de bricoleurs, puisqu'on donne des conseils aux gens qui veulent eux-mêmes fabriquer, améliorer leur appareil TSF, sont aussi le lieu de chroniques, d'expériences d'écoute, d'expériences d'écoute du bruit et également. Donc on arrive pas dans cette réflexion sur la radio par le haut, si vous voulez, disons par l'esthétique, hein, comme la réflexion sur l'art. On y arrive par le bas, l'expérience vraiment d'écoute et de bricolage. En 1938, il commence à publier des textes dans des revues musicales, comme la revue musicale tout court. Il n'arrive pas avec un grand bulldozer théorique et dit au lecteur de cette revue musicale ce que c'est que la retransmission, puisque lui-même s'occupait de la retransmission des opéras à l'Opéra de Paris. Donc il voyait vraiment les questions, comment tirer les fils, quelle machine était flageolante, où garer le car. Enfin, c'était vraiment très, très concret, puisque c'était encore un peu risqué que de transmettre en direct quelque chose, et même d'enregistrer dans le lieu plutôt des œuvres musicales.
Alors on pourrait dire qu'au départ, vous vous intéressiez plus à la technique, aux véhicules qu'au contenu, au programme.
Moi j'étais ingénieur, n'est-ce pas ? J'étais ingénieur et alors c'est assez amusant parce que entre des camarades qui étaient tout à fait dans leur début, n'est-ce pas, qui savaient à peine leur métier parce qu'ils sortaient des grandes écoles où on n'apprend rien de pratique en tout cas, ces jeunes ingénieurs, ce sont des noms que j'aime bien citer parce que Joyeux et Matra sont restés de très bons camarades et Devez est mort héroïquement en déportation. Eh bien, pour ne prendre que ces camarades, il y en avait d'autres, n'est-ce pas ? Mais disons que nous étions partagés comme à Yalta l'univers. C'est-à-dire que Joyeux avait les câbles, Devez avait les amplificateurs des câbles, les répéteurs, comme on dit, Matra avait les studios. Et alors moi, je suis arrivé un peu après les autres, j'avais plus rien. Parce que quand vous avez partagé les studios, les câbles et les amplis, il vous reste rien. Mais si, on avait oublié qu'aux deux bouts des câbles, il y avait un bout un microphone et un autre bout, il y avait un haut-parleur. Alors, j'ai pris ce qui restait. Ça avait l'air de la part du pauvre. Et en fait, Quelle chance pour moi, j'ai découvert que ce micro à l'entrée et ce haut-parleur à la sortie, c'était le raccord entre l'univers de la technique et l'univers des programmes, tout simplement. L'univers de l'homme, avec sa voix, avec sa musique, avec ses pensées, et l'univers de la transmission électronique, qui, lui, n'a pas d'âme, n'est-ce pas ? J'avais eu l'idée, comme beaucoup de jeunes gens de ma génération, des mouvements de jeunesse d'alors, de rénover la France, de la France occupée, n'est-ce pas ? Il fallait bien vivre. Nous n'étions pas tous à Londres, n'est-ce pas ? Il en restait.
Schaeffer est un pragmatique.
Karine Le Bail.
Mais chez Schaeffer, c'est ce que disait son ami l'écrivain Roger Lénart, il disait que c'était jamais à travers une idéologie que se construisait son action. C'est un homme qui s'engage dans la Révolution nationale parce qu'il va y trouver tous ses copains scouts, parce qu'il parle d'ailleurs de Vichy, du premier Vichy comme un vrai camp scout, parce que le secrétariat d'État à la jeunesse est effectivement dirigé par des anciens copains, des équipes sociales de Robert Garrick. Donc c'est quand même ce scoutisme, cette pensée de régénération, de spiritualité, qui va l'entraîner dans cette aventure de Radio Jeunesse, donc qui est une émission quotidienne, qui n'est pas piqué des hannetons. Schaeffer va essayer de défendre quand même son association culturelle et il se fait virer effectivement, mais c'est encore une fois, il pensait que à Jeune France comme à Radio Jeunesse, il allait pouvoir animer, construire des projets culturels.
Il a mis en forme par exemple un discours du Marshal Pétain pour lequel il a essayer de trouver une voix qui lui ressemble, et il a pris Alfred Cortot, donc il a réfléchi à la mise en scène de ce discours, donc c'était pas indirect. Voilà, donc ses premières activités de mise en forme datent de 41-42.
On avait tiré un peu d'argent de Vichy. Et comme nous n'avions pas bonne presse, que nous n'étions pas extrêmement vichysois tout en vivant sur le fric de Vichy, du secrétariat à la jeunesse, on m'avait donc remis à la disposition de ma maison d'origine. J'avais à rejoindre la radio repliée alors à Marseille. Alors donc j'étais un espèce de proscrit, un type qui avait complètement tout raté. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à la radio. Mais comme on y pense en prison, comme on y pense au couvent, comme on y pense si j'avais été un anachorète du désert. Alors ce désert, c'était les rues de Marseille, fort désertes.
Alors, Schaeffer ensuite va réfléchir, à la fois lire un peu plus qu'il ne l'a fait auparavant quand il était dans les mains dans le cambouis, si vous voulez, quelques textes théoriques, et puis réfléchir aussi à ce qu'étaient les productions artistiques qu'il pourrait prendre comme exemple. Donc ça sera, quand il sera à Marseille, l'essai sur la radio et le cinéma. Deux choses, il dit que finalement, si l'on parle d'un côté de cinéma, si on pourrait définir la radio comme dinéma. Alors dinéma, c'est créé à partir du mot dynamique, et donc il situe clairement, à nouveau, vous voyez, la radio du côté de l'impact. Il y a un dynamisme du radiophonique, du son, dont il faut tenir compte, et de quelque chose qui peut transformer la perception. Et la seconde idée ou la seconde piste, c'est de dire que finalement, la radio est le langage des choses. Et cette formule qu'il a trouvée donc à Marseille, voilà, en attendant de retrouver un autre poste à Paris, voilà, elle va parcourir toute sa réflexion. Il dit même qu'il faudrait parler, comme on parle de langage, de chosage. La radio est le lieu où les choses nous parlent. Et les choses, évidemment, concrètement, c'est le cas de le dire, ce sont les bruits. Ce sont des événements bruités, extraits de la réalité, et que l'on zoomerait. On a une approche un tout petit peu phénoménologique, si l'on veut. On se rapproche du phénomène qu'est, en l'occurrence, une goutte d'eau, un bruit de moteur, tout ce que vous voulez. Et ça serait donc... ce que nous propose la radio, une nouvelle écoute de ce que sont les bruits et de ce qu'est le langage des choses.
Un 42, c'est un moment important de sa vie, un tournant. Il vient de perdre sa femme.
Giordano Ferrari.
Il va s'éloigner de l'Église catholique. Ça, c'est un élément très important parce que ça, cela a marqué toute sa production des années 30. D'ailleurs, toute sa production aussi théâtrale. Et aussi, on place en 1942, juste au début de 1942, la connaissance de Gurdjieff, qui va l'initier à une vision de la vie, une vision spirituelle justement différente de celle qui avait caractérisé sa vie et sa vie d'artiste jusque-là. Donc, fin 1941 et 1942, c'est une phase très importante pour Schaeffer, un vrai tournant à tous les niveaux, au niveau existentiel, au niveau artistique et esthétique.
Cette réflexion sur la radio était une réflexion tout à fait dans l'abstrait, une réflexion au fond de la solitude, de l'isolement. Je pensais à la fois programme et ingénieur, c'est-à-dire je pensais que la radio pour laquelle il fallait recruter de nouveaux pionniers, n'est-ce pas ? Ces pionniers n'avaient pas encore été trouvés parce qu'ils devaient être bicéphales, ou en tout cas ils devaient avoir une bonne tête de technicien, une bonne tête d'artiste. Et le prototype de ces gens-là, c'était l'ingénieur du son.
Il bénéficie de l'expertise de techniciens très chevronnés qu'il va retrouver d'ailleurs pendant la résistance. Donc toujours cette idée de la filiation de ces hommes qu'on rencontre, avec qui on noue des relations très fortes et avec lesquels on va pouvoir poursuivre et continuer l'aventure. Et effectivement, c'est déjà l'idée de restituer un espace scénique, un espace sonore. Toute sa vie va tourner autour comment faire scène à la radio. Moi qui ai fait scène sur les parvis des églises dans les années 30, hein, ou dans des grands messes scouts dans les forêts, comment restituer cette scène et redonner cette dimension du décor.
Probablement, ce moment-là, c'est un musicien, un homme de lettres, un homme de radio, un homme de théâtre qui évolue vers les médias. Et un artiste, à l'époque, on disait souvent justement ce concept d'art total, mais pas d'art total dans le sens wagnérien, c'est-à-dire pas un spectacle qui réunit et fait la synthèse de tous les arts, mais l'idée d'un artiste qui a plusieurs flèche de son art et qui a plusieurs cordes, si vous voulez, dans son instrument, et qui a une vision transversale, réunit plusieurs arts, pas en cherchant de faire une synthèse, mais en cherchant de les associer et sans limite et sans inhibition.
Le jour, nous travaillons dans un studio garni de paillons de bouteilles. Et la nuit, nous descendons dans la cour, entourée de trois côtés, par l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Ils sont 8, 4 garçons, 4 filles qui se partagent le texte. Il y en a bien la moitié à présent dont le public connaît les noms. Olivier Husneau, Madeleine Barbulet, Suzanne Flon, Hivernel, Marguerite Arandel. C'est Jacqueline Baudouin qui tient le registre suraigu et j'ignore même si elle fait encore du théâtre, tandis que Louise Comte, au beau timbre de mezzo, on sait bien qu'elle est de la comédie française. Quel mal nous avait donné ce texte. Tard dans la nuit, dans une qualité de silence qu'on ne trouve qu'en province et qui semble clandestine comme l'époque, nous enregistrions Falaise, technique et amicale, gravée sur des tourne-disques assez improvisés. Et nous nous préparions à montrer le résultat de nos travaux le lendemain au maître. Je parle de Jacques Copeau.
7 octobre 1942, à Beaune, de nuit dans la cour de l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres.
C'est Olivier Husneau qui faisait l'annonce.
Étoile de la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense...
Voilà la voix de Jean-Claude.
Et voici votre voix sur cette lourde plaine et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés et notre lassitude et notre force pleine. Étoile du matin inaccessible.
Vous avez entendu le fameux bruit des bidons du laitier qui nous gênait si fort.
Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon.
C'est la voix de Louise Comte.
À peine quelques toits font comme un archipel. Du vieux clocher retombe une sorte d'appel.
Les micros laissaient siffler les S.
Pierre Arnaud, 1981.
Quand on avait fait ce stage auprès de Jacques Copeau, Pierre Schaeffer avait demandé à l'époque à Jacques Chaillet, qui est le secrétaire général du conservatoire, de lui fournir les meilleurs talents de ses élèves du conservatoire. On a été à Beaune, et c'est comme ça que j'étais engagé d'ailleurs, j'avais connu Schaeffer avant, comme régisseur pour organiser le cantonnement de tous ces gens-là à Beaune. Et à l'hôtel des Ducs de Bourgogne, qu'on a transformé en studio avec un certain Falaise, qui était notre technicien, on a essayé de développer un art radiophonique. Pierre Schaeffer voulait développer un nouveau métier qui s'appelait la mise en onde. Il a donc décidé de faire une espèce de studio d'essai avant la lettre et on a travaillé au micro un ton radiophonique, un ton naturel qui est celui maintenant de la radio. C'est-à-dire on a travaillé également les plans sonores, enfin un peu tout l'ABC de la radio qui jusqu'à avant était simplement soit la radio PTT, c'est-à-dire un tout petit studio avec un seul micro et un monsieur qui parlait devant, soit la radio privée, commerciale, qui était l'ancêtre du disque jockey ou les émissions publiques.
Pas toujours égal, sans hâte ni recours, les champs les plus présents vers les champs les plus proches. Vous nous voyez marcher, nous sommes...
Était cela la marque de notre désir obscur de communauté? Cette récitation chorale, si difficile à obtenir...
Souvent, les speakers formaient des chœurs, donc c'était un travail choral. Enfin, c'était pas seulement une voix qui devait passer dans le micro, il fallait aussi s'insérer dans les quatre autres. Donc là, il est dans la formation de speakers, de comédiens, déjà entamés dans les années 30 au conservatoire, où il avait proposé un cours, où il avait recruté des gens pour la radio. Mais là, c'est dans une visée artistique, donc il travaillait sur un texte d'Homère, un texte une nouvelle de Pau en fin 42 pour essayer de ce que c'était la mise en onde d'un texte littéraire et former les voix pour cela.
Copeau, qui était un homme de théâtre essentiellement, n'est-ce pas, avait, comme tous les gens qui ont du génie, n'est-ce pas, savent immédiatement changer d'habitude et d'attitude quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Alors, le théâtre, c'est l'art de se montrer, n'est-ce pas, c'est la représentation. Eh bien, Copeau, sans hésitation, a dit « Le micro, c'est le contraire. » Le micro, c'est la confidence, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on imagine. Et il est livré par sa voix. Il n'y a rien de plus nu qu'une voix. Et en effet, c'est la différence avec la télévision. Vous pouvez quand même grimer quelqu'un. La télévision aussi est indiscrète. Mais enfin, on peut éclairer, on peut grimer. On ne grime pas une voix. La voix est ce qu'elle est. Et Coppeau avait ce mot merveilleux, n'est-ce pas ? Il disait, le micro, c'est le gros plan sur le cœur. J'ai donc commencé modestement, nous n'étions pas là en 42 à Paris, un petit, pauvre petit studio d'essai à moitié clandestin, niché dans la rue de l'université, pour avoir des grandes ambitions politiques. Mais nous pouvions avoir les ambitions de trouver de bons comédiens du micro, de bons lecteurs de textes, de bons ingénieurs du son, de bons présentateurs, de bons metteurs en ondes. Voilà quelle était l'ambition. Et c'était tout à fait le contraire d'une école, bien entendu. D'abord, une école, on n'apprend rien, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'école d'art, c'est pas vrai.
Oui, c'est un peu la ruche, c'est une petite ruche dans un bel hôtel particulier, juste à côté des ministères, hein, donc ils sont un peu dans la gueule du loup. Ils sont à côté du ministère du Travail, à côté des services généraux de la radio. Et le bâtiment lui-même n'est pas du tout prévu pour faire de la radio. Mais Schaeffer jette son dévolu sur ce bâtiment, justement, parce qu'il ne ressemble pas à un studio de radio. Se représenter l'organisation d'un studio quand on voit des salles vides comme elles le sont aujourd'hui, après ça a été habité, nous permet d'imaginer aussi la grande inventivité de ces hommes et femmes de radio qui utilisaient absolument tout. Ils se faisaient tomber, rouler dans les escaliers, ils utilisaient la cave comme chambre d'écho, les fenêtres pour sauter, pour imaginer des fictions. Comme disait Pierre Dumayet, il disait que c'était une cour de récréation.
Nous allons vous faire entendre l'émission improvisée par laquelle nous avons débuté à 6h30 ce matin.
6h30. Nous vous avons promis hier soir de reprendre nos émissions à cette heure-ci. Le studio dort. Ses collaborateurs habituels, épuisés par les conditions dans lesquelles ils ont repris depuis dimanche soir la tâche de vous faire entendre la voix authentique de la France, se reposent encore. Et c'est un profane, un de ces garçons qui occupent présentement les bâtiments officiels pour assurer leur protection, qui vous parle. Je ne me suis pas d'ailleurs réveillé tout seul. Une jeune speakerine, c'est de vous Agnès dont je parle, est venue frapper à la porte du bureau où je reposais pour quelques heures, et avec elle nous montons cette émission improvisée.
Alors, arrivé à Paris, le studio d'essai naissant, après le stage de Beaune, qui avait donc eu lieu à l'automne 42, en 43, nous ouvrons des concours. Ces concours, alors, sont des concours insensés, parce que ce sont des concours où on dit diplôme exigé, aucun. Bon, école, aucune. Mais dictée d'orthographe, dissertation, dictée musicale, dépannage. Le type disait, je suis pas technicien. Et ça fait rien, vous n'êtes pas technicien, mais vous allez quand même nous dire à ce que vous entendez. On avait complètement inversé le problème des pédagogues. Les pédagogues veulent prendre des gens qui savent quelque chose. Et nous voulions former des gens, un métier dont on ne savait rien. On ne pouvait pas leur demander ce qu'ils savaient. Et nous ne savions rien nous-mêmes. Mais nous voulions savoir s'ils avaient une bonne oreille, s'ils étaient futés, s'ils étaient débrouillards. Et puis, comme c'était quand même du temps de la France occupée, on voulait quand même qu'ils soient un peu courageux, qu'ils soient un peu motivés, quoi, qu'ils soient un peu prêts à faire les 400 coups.
Et puis, ce qu'il a toujours voulu faire au studio d'essai, et ce qu'il va continuer à faire au service de la recherche, c'est cette envie de renouveler les genres et les formats radiophoniques et de donner à penser à tous ces corps de métier la façon dont ils pensent leur propre métier, dont ils peuvent faire évoluer aussi leur propre métier. Et cette dimension d'expérimentation, elle était géniale parce que c'était on sort du flux, on sort de la productivité de l'antenne, on crée un espace à côté. On expérimente, on a le droit de se tromper, mais c'est là qu'on peut renouveler les choses. C'est certainement pas dans la contrainte du flux quotidien d'une production radiophonique.
Le studio d'essai qui a eu lieu pendant toute l'occupation préparait cette radio d'après la Libération, à la fois en préparant la Libération de la France de notre point de vue, enfin de notre côté, mais d'autre part en préparant ce que devait être cette radio. Et on a fait toutes sortes de choses. C'est à cette époque-là où justement on a commencé la musique concrète. On a commencé des espèces d'entretiens que Jacques Chancel a ensuite illustré, si vous voulez. On a fait des lectures à une voix. Jacques Copeau a enregistré plusieurs choses. Et on a travaillé un peu dans tous ces domaines.
Pierre Schaeffer, Paul Claudel, entretien 1944.
Il fait d'ailleurs qu'on se méfie en général et à juste titre de la radio, parce qu'une fois qu'on a pris à quelqu'un ce qu'il a de plus essentiel, qui est sa voix et sa pensée, et sa pensée à travers sa voix, on en fait en général un usage déplorable, commercial, et souvent très indélicat. Oui, c'est ça.
Mais là, il s'agit au fond, si je comprends bien, d'une sorte de pièce d'archive.
Oui, c'est ça. La radio est la chose la plus extérieure du monde et ça pourrait être la plus intérieure, car ce qu'on dit à un micro et dans l'intimité d'une chambre, ça peut être quelque chose d'extrêmement émouvant, n'est-ce pas ? Et cette radio-là n'existe pas, on n'en a jamais fait usage. Ouais. Et Copeau, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a fait travailler il y a un an et demi, a beaucoup insisté sur ce ton, il appelle ça le ton confidentiel à la radio. Ouais. La chose qu'on dit à
C'est dommage, par exemple, qu'on n'ait pas gardé quelque chose des conversations de Mallarmé, n'est-ce pas?
Oui.
Mallarmé était tout entier dans ses conversations, beaucoup plus que dans son œuvre, à mon avis.
Il a eu la première fois l'idée d'aller voir un écrivain, en mettant des machines à enregistrer dans une voiture et d'aller au château de Brang. Il dit en tout cas que c'est l'entretien d'écrivain et son idée, tout simplement. Les Allemands avaient fait ça en invitant les écrivains devant leur micro et en le faisant improviser comme un rhapsode grec. Lui est allé voir Claudel, qui était fasciné par ça. On était encore très fasciné, très longtemps, par la voix pure de quelqu'un qui parle. Ça, c'est une chose peut-être qu'on ne peut plus reconstruire, nous, maintenant. On en a entendu tellement, on est inondé de voix, ça ne nous fait ni chaud ni froid, d'une certaine manière. Mais le fait d'avoir la voix de Gide ou la voix de Claudel ou autre dans son salon était un phénomène au sens fort absolument, absolument nouveau. Et donc Schaeffer le met presque sur le même plan que ce que nous on appellerait maintenant la radiophonie, qu'on associe plus à beaucoup un luxe de mixage, de mélange. Mais c'était déjà un impact incroyable. Et on pensait percevoir dans le ton d'une voix, voilà, encore une fois, le caractère d'une personne. Une chose seule peut être encore fascinante, parce que c'est à côté de vous.
Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente La coquille à planète. Suite fantastique pour une voix et 12 monstres, par Pierre Schaeffer. Musique de Claude Arieux. Premier épisode, le Zodiac. Avec Françoise Delisle de la Comédie Française.
Il y a pas mal d'incunables, comme on dit, radiophoniques, où on voit des choses expérimentales dès la fin des années 30, comme créer des situations, des pièces dans le noir, des gens qui sont perdus dans une caverne, des choses de ce type, hein, où on évoque l'idée d'un univers fait de sons. Et justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme aussi immédiatement après, se diffuse cette idée que la radio peut être aussi un art avec une esthétique propre. Et fondamentalement, la coquille à planète contribue énormément à cela. C'est, disons, l'œuvre qui, en France, montre bien ce type de recherche. Donc, la coquille à planète qui va arriver avec la création de ce studio d'essai, c'est une œuvre où le mot expérimental est
à entendre sous tous les points de vue. Dans le sens qu'il va utiliser toute la technologie qu'il a à disposition, la manière d'enregistrer les voix qu'on connaissait à l'époque, mais aussi les ondes de Martineau. Il faut rappeler que le studio d'essai, Maurice Martineau avait un bureau, donc il était, faisait partie du studio. Donc toutes ces machines à produire des sons différents étaient utilisées. L'orchestre, le chant, tous les bruits enregistrés, comme celui justement de la machine qui ouvre la pièce. Donc les bruits du réel, les sons, disons, artificiels ou électriques, avec une production non traditionnelle, tout est convié dans cette œuvre.
Qui demande mon âge ? C'est amusant. Figurez-vous, vous ne devineriez jamais. Cela se passe à une station de métro, exactement à Sèvres-Babylone. Et qui me demandait mon âge ? Là non plus, ne cherchez pas, non. C'est une machine. Une petite machine idiote à distribuer l'horoscope. La machine disait dans le naïf caractère gras de sa notice : tout homme doit se connaître lui-même, vous en êtes un autre, mettez un franc dans la fente F. Pressez sur l'un des boutons B correspondant au mois de votre naissance, tirez le tiroir T, vous y prendrez votre horoscope.
Sunt Aries Taurus.
L'histoire est une histoire d'un parcours d'initiation, parcours d'évolution existentielle, certainement autobiographique de Schaeffer lui-même. En effet, les protagonistes de ces 8 épisodes qui constituent la coquille à planète s'appellent Léonard. Et c'est Léonard, il vient de perdre sa femme, donc il y a une référence très évidente avec la vie de Schaeffer. Et il rentre dans le métro parisien, le métro Sèvres-Babylone, et il met une petite pièce de monnaie dans une machine à tirer l'horoscope. Donc, bien entendu, les planètes sont les planètes, les signes zodiacaux. Et à partir de ce moment-là, Léonard va traverser Paris en 24 heures, va se balader dans la ville de Paris pendant 24 heures, et il va rencontrer tous les signes du zodiaque. Et donc, il y a ce parcours sur la destinée, qui renvoie justement à la vie intérieure de ce personnage, Léonard.
Je désirais sa main abandonnée, son autre main rejoignait la mienne.
Toute question est au-delà des
la coquille, déjà, c'est un terme qui vient de Paul Valéry. C'est-à-dire cette idée de coquille qu'on va cueillir au bord de la mer et qu'on pose à l'oreille et on entend les bruits de la mer qui se mélangent avec le son du sang de la personne qui a fait ce geste. Et donc, il y a cette idée d'un média, dans ce cas qui est la radio, bien entendu, qui est capable de mélanger l'intimité de l'homme, sa partie la plus profonde, et la nature, ce qui est l'extérieur, le réel. Donc la coquille, bien entendu, est intense comme la radio, ce symbole-là, la radio qui est capable de faire réfléchir sur soi-même.
Mais que dire de la mort et du malheur ?
Les mots sont sur les choses comme des housses. Les noms sur les êtres sont des défroques. Notre vision est à notre œil sa propre tête.
Pourtant, nous approchons du but. Nous l'effleurons parfois du bout de notre divination.
Ce qui nous reste dérobé, c'est par un voile si léger.
La vie, la mort, des barreaux les séparent. De quel côté est la prison ? Où sont les clés ?
Nous cherchons tous des clés qui ouvriraient la porte des merveilles.
J'ai déjà entendu cela quelque part. Ou l'ai-je dit moi-même ? De tels propos, dans ces temps-ci, sont sur toutes les bouches.
Que de serrures.
Cela aussi est un signe, au même instant, les mêmes pensées traversent l'esprit. Faut-il répondre ?
Cet épisode un peu symbolique, où le jeune homme, Léonard, est initié par le mage, et il doit regarder un sucre qui fond dans un verre d'eau, Donc Schaeffer reprend une scène philosophique de Bergson, précédée elle-même par Descartes. Mais évidemment, l'observation de quelque chose de concret, la beauté du morceau de sucre qui fond dans l'eau, la capacité de tenir et de regarder ça, eh bien ça communique avec son idée du langage des choses. Donc celui qui a la capacité de s'approcher poétiquement du monde est symbolisé là par cette petite scène d'initiation. Et ça vous donne l'éthos, si vous voulez, ou l'esthétique, comme on veut, de celui qui fait de la radiophonique. Quoi. Il est auprès des choses, il s'approche de quelque chose, il va auprès du grain des choses et il tient.
J'ai vu bondir et couler dans les eaux du fleuve tous ces monstres qui avaient ramené péniblement le pauvre filet du pêcheur. Dauphins bleus, squales gris de fer, esturgeons d'argent, dorades dorées.
Pour ce qui est de l'histoire de l'art radiophonique, la partie, on pourrait dire, progressiste ou intéressante, c'est la présence du bruit dans certains épisodes, notamment du bombardement, l'épisode qu'il appelle des aigles, mais les aigles, ce sont les avions ennemis. Il y a là l'utilisation de bruit, mais aussi d'ondes marteneaux qui font des espèces de glissants d'eau terrifiants. Donc là, on a quelque chose qui annonce vraiment la musique concrète qui va venir un peu plus tard. On a dit souvent qu'il y a une passerelle entre le décor sonore qui, dans la coquille à Blanette, dans certains épisodes, prend le dessus, et l'idée de faire une symphonie de bruit qui est le premier germe de la musique concrète.
C'était le hurlement. C'était gémir pour commencer. Puis, la rumeur pivotait sur elle-même autour d'un nœud sordide. Puis, débordait en de longues crises artificielles, parfois semblables aux saccades du rire. Hurlait à sa place. Le cri humain soulageant les grandes peurs, c'était à l'intérieur de nous, les dents serrées, les lèvres blêmes, dont il fallait le savourer.
À l'époque, c'est un homme qui se cherche et c'est un homme qui est certainement, comme toutes les personnes de l'époque, dans un état d'urgence à cause de la guerre. Et dont la conscience, bien entendu, oblige quelque part l'homme et l'artiste à aller jusqu'au bout des idées. La coquille à Planète, fondamentalement, c'est une œuvre qui a cet engagement humain. Hein, c'est-à-dire cette idée que l'artiste doit aller jusqu'au bout de sa réflexion, voir l'humanité qu'il a en lui et voir ce qui peut être utile à la société, aux autres, dans la voix de l'artiste. Voilà. Donc à Coquille Planète, on a cet esprit-là, il y a ce climat-là qui s'installe.
certains des épisodes vont être diffusés dans la radio de Vichy. Et c'est ça qui est intéressant à noter, c'est que dans cette radio hyper extrémisée de la fin de la guerre, vraiment lancée dans la collaboration, les émissions antisémites, il n'y a plus beaucoup de différence avec Radio Paris, on va retrouver une enclave de résistance, une enclave à la fois de créativité avec des œuvres très originales qui tranchent avec l'esthétique de Vichy, et puis cette sociabilité résistante qu'il y a au sein de ces émissions enregistrées clandestinement la nuit par les poètes des éditions de Minuit.
Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente la chronique sonore de Paris libéré. Enregistré dès le dimanche 20 août, durant les 5 derniers jours de l'occupation allemande, ces documents assurément incomplets et d'inégale qualité sont authentiques, forcés de mêler la grande histoire de la libération de Paris à celle anecdotique de la libération des Antilles. Il n'a d'autre mérite que de vouloir fixer pour la mémoire des Français ces rumeurs de ces cris, ces proclamations, ces silences, pour l'accent de ces journées d'inoubliables. C'est l'œuvre d'une équipe unie par le métier et par la résistance.
Schaeffer, depuis le début de l'année 44, commence à mobiliser ses troupes pour préparer tout un plan de programme d'émissions qui vont servir à l'immédiate après libération. Parce qu'il a déjà pensé que juste après la prise des antennes, on allait se retrouver avec rien. Effectivement, les journalistes de la Radio Nationale, les journalistes collaborateurs de Radio Paris, évidemment, ne sont plus les bienvenus. Donc il faut de la matière neuve, nouvelle. Et ça, ce plan de senteur qu'a imaginé Schaeffer, dès janvier 44, il commence à élaborer. Mais là encore, il va aussi se servir d'autres enregistrements antérieurs qu'il a produits dans le cadre du studio d'essai à partir de 43.
Faisant partie de l'équipe de Schaeffer.
Jacques Poulain, 1984.
On était affilié au réseau Résistance PTT, au sein duquel Schaeffer avait été désigné justement pour préparer la libération de Paris et de faire démissionner M. de Choqueuse, qui était à l'époque le directeur de la radio. Donc, quand il y a eu ces événements, tout d'un coup, on s'est rabattu aussi au décès, et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance extraordinaire, de participer à la libération de la radio, n'est-ce pas ? Schaeffer a fait démissionner M. de Choqueuse, a pris les lieux, et sur instruction de Jean Guimbert, lequel remplaçait Telgen qui était prisonnier, Telgen est devenu ensuite ministre de l'Information et Guimbert est devenu directeur de la radio, mais il se trouve que Schaeffer se trouvait directeur de la radio à ce moment-là, pour notamment émettre aussi vite que possible sur les ondes, mais avec un chapeau qui n'était plus le même. Alors, pendant la période de janvier à août, ils avaient fait beaucoup d'enregistrements clandestins, justement, pour préparer la libération de Paris, et Paul-Éluard, Lescure, Tardieu.
Un petit nombre d'intellectuels français,
Paul-Éluard,
s'est mis au service de l'ennemi.
1944.
Épouvantés, épouvantables, l'heure est venue de les compter, car la fin de leur règne arrive. Ils nous ont vanté nos bourreaux, ils nous ont détaillé le mal, ils n'ont rien dit innocemment. Belles paroles d'alliance, ils vous ont voilé de vermine, leur bouche donne sur la mort. Mais voici que l'heure est venue de s'aimer et de s'unir pour les vaincre et les punir.
Dans le fonds d'archives de Pierre Schaeffer, qui maintenant est déposé à l'IMEC, on retrouve de nombreuses feuilles d'enregistrement, celles qu'on utilise encore aujourd'hui avec les droits d'auteur. Donc on sait à peu près quels sont les enregistrements. On a les programmes aussi de la radio pendant l'occupation. Et là, on découvre que Schaeffer a un petit peu transformé la réalité en faisant valoir que son studio d'essai ne s'occupait en quelque sorte que de la libération, de la résistance, que c'était c'était un groupe qui n'était pas du tout, qui s'était pas du tout commis dans la politique de la Radio Nationale de Vichy. Or, on voit qu'il émet quand même, ces programmes-là sont diffusés à de multiples reprises pendant l'occupation. Cette frontière très floue entre le licite et l'illicite qui va lui permettre de fonctionner sans être inquiété jusque les premiers mois de 44. Il va se faire limoger quand même au printemps 44. Mais en revanche, on sait que certains enregistrements sont véritablement clandestins. Ceux qu'il va présenter à son chef dans la résistance, le journaliste Jean Guignebert, qui est chargé par intérim d'être secrétaire général à l'information, on sait que enregistré du Arnold Schoenberg pendant l'occupation, ça n'est pas pensable à la radio. Donc ces séances se font de nuit et on a là aussi les témoignages et on sait parfaitement que ça s'est organisé ou très tard le soir ou à l'aube. On sait par exemple que le cathédrale de Schoenberg a été enregistré entre 6h30 et 8h du matin et qu'il a fallu 18 séances. Il imagine à la fois des programmes musicaux. Donc ils enregistrent sur des disques, ils vont voler des disques au palais Berlitz qui est occupé par les Allemands, ils vont voler des faces et ils enregistrent l'hymne soviétique, ils enregistrent plusieurs documents. Il y a ces fameux documents enregistrés clandestinement qui s'intitulent les émissions de minuit, qui sont les répliques radiophoniques des éditions de minuit, donc parce qu'il y a beaucoup des acteurs du Comité national des écrivains et le Front national pour les musiciens, le Comité de Front national de la musique, là aussi donc dans la mouvance du Parti communiste. Donc toutes ces personnes se retrouvent pour enregistrer plusieurs documents qui vont permettre effectivement à la fois de diffuser de la musique militaire, de la musique classique, de la musique légère, de la poésie, de la littérature, et puis des bulletins d'information qui doivent scander très régulièrement cette radio qui accompagne les combats.
Deux Alsaciennes en costume national lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique.
Pierre Crenesse.
Les gens se camouflent sous les chaises.
1944.
Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Les coups de feu crépitent toujours. Les salauds.
Texte qui est hypothèse. Valérie, en fait, a imaginé cette notion dans les années 30. Quand une bataille se livrera en quelques lieux du monde, rien ne sera plus simple que d'en faire entendre le canon à toute la terre. Les tonnerres de Verdun seront reçus aux antipodes. Donc ça, c'est quelque chose d'antinaturel, d'effrayant pour Valérie. C'est-à-dire, dit-il, des relais, voilà, par le détour desquels une réalité seconde s'installe, se compose avec la réalité sensible. Voilà, donc on a l'impression vraiment que les médias, puisqu'au fond c'est vers ça que Valéry tend, c'est ça qu'il essaye de trouver, mais il n'a pas encore le mot, il lui dit relais, mais c'est les médias, et bien ça va nous phagocyter d'une certaine manière la réalité, ça va créer un doublon inquiétant, ça va transformer du coup notre perception. Et c'est ce passage-là qui a frappé Schaeffer, et d'où son idée d'art relais pour la radio et pour le cinéma.
Ici Radiodiffusion de la Nation française. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
N'importe qui, tout le monde saura sonner les cloches ce soir. Il n'est pas nécessaire d'être sacristain et d'avoir appris. Tout le monde sait sonner les cloches.
Nous vous rappelons également qu'il est tout de même nécessaire de prendre encore quelques mesures de sécurité. Pavoisez si votre quartier est calme. Sortez dans la rue si votre quartier est calme.
Les cloches!
On entend les cloches de notre quartier.
Mais il faut approcher le micro dans la tête.
Alors si les cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement
20h05. We take pleasure in bringing you the Germans are still occupying certain points of the capital, but we have already the possibility to speak to you.
Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25.
Donc quand on dit laboratoire, on ne peut pas dire qu'il y ait une rupture ou une invention de forme ou de nouvelle dans le studio d'essai. C'est plutôt une synthèse et puis quelque chose de systématique. On va explorer toutes les pistes qui existent depuis tout de même, voilà, à ce moment-là, 15 ans, un peu partout. Voilà. Je dirais que le studio clôt là vraiment la période des années 30, à la fois théoriquement et en pratique. Et puis chez Tardieu, avec le club d'essai, on va aller plus vers cette idée d'une chaîne culturelle.
Pierre Schaeffer, au temps du studio d'essai. Avec Karine Le Bay, Giordano Ferrari et Martin Kaltenecker. Musique de Pierre Schaeffer et Bernard Parmigiani. Merci à Christelle Rousseau, Jocelyne Tournay, Sylvie Dallet, Jacqueline Schaeffer, Marc Jacquin et Marie-Claire Schaeffer. Archivina, Anne Lorveil. Avec des extraits de La chronique sonore de Paris libéré, Il était une fois la radio, Le temps retrouvé, L'honneur des poètes, La marche de l'histoire, La fabrique de l'histoire. Attaché de production, Inès De Bruyne. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Alexandre Bazin. En collaboration avec le groupe de recherche musicale GRM de l'INA.